Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce et la paix sont données à chacune et à chacun d'entre nous de la part de Dieu notre Père et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous présentons ensemble devant Dieu en suivant le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Nous unissons nos voix dans le chant de ce psaume 134. Oui, de tout cœur, ô Éternel, nous te rendons grâce. Nous te chantons en recevant ta parole. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité, par lesquelles tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche et nous chantons les chemins de l'Éternel. Quelle est grande la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux, et quand nous marchons au milieu des angoisses, toi, Éternel, tu nous fais revivre. C'est ta droite qui nous soutient. L'Éternel fait tout pour nous. Ô notre Dieu, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est ce psaume 138 que je viens de vous lire, que je vous propose de chanter maintenant ensemble, dans le psautier français. Les trois premières strophes de ce psaume 138. Vous pouvez prendre place. Je voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. Merci d'être ici, votre présence, votre démarche, votre chant, votre sourire, votre bonjour sont pour nous un témoignage de foi important. Et c'est vrai que c'est bien que nous ayons pu, malgré ces temps de vacances, ces temps d'éparpillement, nous puissions nous retrouver ici quelques-uns pour nous réchauffer et donc nous porter les uns les autres par un témoignage de recherche de foi. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. « Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans cet amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Face à cet idéal infini de l'amour parfait, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute ma prière. Que ton oreille se fasse attentive au cri de mon appel. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu envers chacune et chacun d'entre nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ». Avance dans la paix. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il a pour chacune et chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation d'apporter à chacun le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. L'Esprit appelle notre foi et il fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Ô Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Jésus a bien des choses à réviser selon les plus grands spécialistes dans son attitude et dans sa théologie. En effet, il doit d'abord apprendre les bonnes manières. Cela ne se fait pas de côtoyer des gens douteux comme si de rien n'était. C'est choquant. Et puis Jésus devrait réviser également sa théologie, ce qu'il dit de la foi, du pardon, du salut. Ça ne va pas du tout, selon la théologie classique, et ses contemporains sont choqués, comme le raconte le récit que je vais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 7, à partir du verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière ses pieds et elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux. Elle les embrassait et elle répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était le prophète ou un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. « Lequel, dit Jésus aux pharisiens, l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Je suppose que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Alors Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, et il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors pour nous mettre à l'écoute de cette parole, je vous propose de chanter ensemble le cantique 240 dans le petit recueil « Louanges et prières ». Vers toi s'élève mon âme, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je vous propose de chanter les trois strophes de ce cantique 240. Ô Éternel notre Dieu, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole, parole vivante, nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins, quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Le texte même de l'évangile que je viens de vous lire porte les stigmates du scandale que les paroles de Jésus ont provoqué, ont été pour bien des théologiens de ses contemporains, mais aussi des siècles suivants. En effet, dans plusieurs des plus excellents manuscrits, pas dans tous, heureusement, la conclusion que Jésus donne de la parabole qu'il nous donne sur le pardon de Dieu, cette conclusion a été grossièrement retouchée. Mais comme c'était plus difficile de changer la parabole elle-même, du coup, la conclusion et la parabole sont incohérents. Alors, la parabole annonçait que le pardon des fautes engendre l'amour, tandis que la conclusion annoncerait que notre amour serait la cause du pardon de Dieu, ou en tout cas serait nécessaire. La parabole, elle annonce effectivement, on le voit bien, ce que la seule cause, finalement, de la remise de dette de ceux qui étaient donc pécheurs, puisque la dette est un mot qui est utilisé pour la culpabilité, pour la faute, pour le péché, eh bien la seule cause de la remise de dette, eh bien c'est la seule libre générosité du riche créancier. Alors la parabole, il fallait vraiment que certains soient bien motivés finalement pour changer cette parabole, pour changer la conclusion, pour introduire cette variante et pour qu'elle soit gardée dans nos traductions et que même bien des traductions ne mettent même pas une petite note en bas de page pour dire qu'il y a un problème. En effet, pour bien des religions et même pour de nombreux chrétiens, le pardon de Dieu est donné à ceux qui ont une vraie repentance bien sincère. D'ailleurs, dans le cantique que nous venons de chanter, cela se retrouve. Quand on arrive bien avec une bonne repentance, alors Dieu peut pardonner. Pour d'autres chrétiens, il fallait que le Christ ait payé pour nos fautes sur la croix pour que le pardon de Dieu soit possible. Et pour que la personne puisse être au bénéfice, qu'une personne puisse être au bénéfice de ce système finalement, il faudrait qu'elle croie bien que Jésus a payé pour elle la rançon sur la croix et qu'elle soit ensuite bien baptisée comme il faut, alors oui, elle est au bénéfice de ce pardon de Dieu. Au contraire, Jésus annonce ici que le pardon de Dieu est premier, absolu, sans condition. Cela change non seulement notre relation à Dieu, ça change aussi notre idée de la justice, c'est le regard que nous pouvons porter sur les autres, que nous pouvons porter sur notre propre dignité, même si nous sommes pécheurs. Voilà comment Jésus justifie donc la remise de la dette, c'est-à-dire le pardon des deux hommes de la parabole. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, nous dit Jésus, le créancier leur remit à tous les deux leur dette. Donc la première raison de cette remise de dette, c'est la générosité du créancier. Et Jésus affirme ainsi que le pardon de Dieu est premier, qu'il n'a absolument pas d'autre cause que la nature même de Dieu. Il est comme ça, on ne se refait pas. Sans qu'il soit question que les fautifs demandent pardon, ni que quelqu'un d'autre paye une rançon à notre place, non, la simple et pure générosité de Dieu rend possible le pardon. Et la deuxième raison de cette remise de dette, si on le regarde bien, c'est que eh bien, les deux débiteurs n'ont pas de quoi payer. Jésus n'est certainement pas contre le fait que ceux qui ont des dettes les payent s'ils le peuvent. Il n'est certainement pas contre le fait que nous fassions tout ce qui est en pouvoir pour réparer les dégâts, le mal que nous avons fait, ni que nous essayions, bien sûr, de faire un peu moins de mal, que nous progressions. Mais parfois effectivement, comme dans cette parabole, eh bien, nous n'en avons pas les moyens. Parfois c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire pour rattraper les conséquences de notre faute passée. Et nous avons alors bien besoin de cette parabole du pardon qui nous autorise à clore ce dossier douloureux qu'il ne sert à rien de garder ouvert parce que ça nous bloquerait dans notre cheminement. Et puis parfois, c'est que nous sommes trop faibles, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien compris à la situation, nous n'avons rien pu faire, c'était plus fort que nous. Et là encore, nous avons bien besoin de nous sentir encouragés par cette bienveillance de Dieu. Alors certaines versions de la Bible font malheureusement dire à Jésus, dans la conclusion de cette parabole, « Les nombreux péchés de la femme ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. » Alors combien d'hommes et de femmes ont été angoissées, ont été injustement souffrantes à cause de ce petit « parce que ». Des personnes sincères sont restées angoissées, craignant que Dieu ne les envoie en enfer, se demandant si elles aimaient assez Dieu pour être justement pardonnées, si elles l'avaient assez manifesté par des prières, par des sacrifices, ou si elles étaient assez persuadées que le Christ avait bien donné sa vie pour elles-mêmes. Au contraire, selon Jésus, le pardon est donné en premier, il n'y a pas à revenir dessus. C'est la liberté de Dieu d'aimer, et il le fait librement, sans chantage, et ça nous donne à nous la liberté d'aimer Dieu ensuite, ou non, librement. Alors depuis 1500 ans environ, la théologie classique enseigne qu'une personne qui a péché doit d'abord bien se repentir, d'une sincère repentance, d'une contrition profonde, qu'elle doit montrer un réel intérêt pour Dieu, une réelle foi, croyance en Jésus-Christ, et qu'alors elle est ensuite pardonnée par l'Église, et grâce à l'Église, elle serait alors pardonnée par Dieu. Et donc Jésus aurait tout faux selon cette théologie classique, car l'itinéraire qu'il nous propose ici est exactement l'inverse. Selon lui, le pardon de Dieu est premier, son amour est sans condition, et c'est pourquoi nous baptisons les bébés comme les adultes, sans condition, en signe de cette grâce inconditionnelle de Dieu pour chaque personne. Et selon Jésus, ce n'est pas l'Église qui pardonne, ce n'est même pas lui-même Jésus qui pardonne ou qui rend possible ce pardon, nous dit-il. Il se contente d'annoncer et de vivre un pardon qui est déjà donné par Dieu, comme l'indique ici l'usage du participe passif, qui est ce que l'on appelle en langage technique un passif théologique, c'est-à-dire dont Dieu a été la cause dans le passé. « Tes péchés ont été pardonnés », dit-il à la fin. Un pardon qui nous permet enfin d'ouvrir les yeux sur nos manques, mais sans nous désespérer. Et déjà, Jésus, oui, il appelle les nombreux péchés de la femme, il ne cache pas, il ne met pas son mouchoir dans sa poche. Le péché doit être appelé péché, mais déjà dans cette vérité possible sur laquelle nous pouvons ouvrir les yeux grâce à ce pardon, il y a là déjà une façon de pouvoir avancer dans la paix et peut-être aussi de préparer une vraie paix possible entre les hommes en ce monde. Mais le scandale continue car selon Jésus, ce n'est même pas l'Église qui sauve cette femme. Ni lui, Jésus d'ailleurs, ni même Dieu qui sauve cette femme. Quel étrange théologien est ce Jésus ? Bien peu chrétien, dirait-on. Jésus annonce à cette femme que c'est sa foi à elle qui l'a sauvée. Alors qu'elle est encore pécheresse, alors que Jésus n'est pas encore mort sur la croix, ni ressuscité, déjà, nous dit Jésus, ses péchés ont été pardonnés. Déjà, sa foi l'a sauvée. Le salut est donc déjà bien présent, il est déjà vécu par cette femme, au présent dans ce monde, comme l'indique le temps du verbe « sauver » ici, qui est au parfait. Ta foi t'a sauvé. Ces paroles de Jésus ont gêné bien du beau monde, là aussi. Cela a gêné, bien sûr, ceux qui mettent l'accent sur les doctrines, puisque il n'est pas une question, une seconde ici, pour Jésus de demander à cette femme si elle adhère à une déclaration de foi, si elle croit en la doctrine de la Trinité, mot qui sera inventé 150 ans plus tard, ni à telle interprétation traditionnelle de la Genèse, ni au symbole de Nicée-Constantinople, mais il y a d'autres théologiens qui sont gênés aussi par ce « ta foi t'a sauvé » de Jésus-Christ. Et après avoir habillé, dans un certain sens, certains théologiens catholiques, certains théologiens évangéliques, il me faut avouer que les réformateurs protestants sont allés, eux aussi, à mon avis, trop loin, de l'autre côté, en tenant du coup absolument au principe que le salut vient de Dieu et de Dieu seul, sans aucune participation de l'homme à son propre salut, et donc, gênés par ce « ta foi t'a sauvé » de Jésus, les réformateurs en sont arrivés à dire que la foi est un pur don de Dieu, que l'homme n'y est absolument pour rien. Alors certes, l'amour et le pardon de Dieu sont des purs dons de Dieu et sont donc appelés à juste titre la grâce, puisqu'ils sont gratuits, sans condition, c'est la liberté de Dieu sans que l'on y fasse quoi que ce soit. Mais qu'en est-il de la foi ? Est-ce qu'elle est donc cette foi, quelle est donc cette foi qui, selon Jésus, a sauvé cette femme ? Est-ce que nous sommes auteurs, dans un certain sens, de cette foi ? Participant à la venue de cette foi dans notre vie? Alors ce que l'on remarque d'abord, et c'est fondamental à mon avis, c'est que Jésus montre ici, avec cette petite parabole, que cette foi dont il parle est synonyme d'amour, et qu'elle est le fruit donc de la grâce de Dieu. Donc oui, Dieu est bien à l'origine première de la foi, car c'est Dieu qui a commencé en nous aimant le premier et en tendant la main vers nous. On pourrait donc dire que la foi nous est donnée par Dieu comme on tombe amoureux sans que l'on puisse choisir de tomber amoureux ou s'empêcher de tomber amoureux. Sauf que le verbe aimer qui est ici, ce n'est pas le verbe de l'amour des amoureux. Il s'agit du verbe grec agapé qui consiste plutôt en une attention pour l'autre et c'est ce que l'on voit bien dans ce texte, dans ce récit. En effet, la parabole du créancier et des débiteurs est plusieurs fois utilisée par Jésus dans les évangiles pour parler de la grâce de Dieu et pour parler de la foi de l'homme qui parfois aime Dieu en retour, comme dans le cas de cette femme, parfois est ingrat et en profite pour être bien méchant. C'est ce que l'on voit dans d'autres exemples de cette parabole. Mais ici, Jésus applique cette image du créancier et du débiteur pour les deux personnes qu'il a en face de lui. Le pharisien est celui qui aime peu parce qu'il était déjà vraiment très juste dans son existence. Il est donc celui de peu de foi. Et la femme pécheresse, donc, est à un stade d'amour de Dieu plus avancé. Elle a une foi plus grande. Alors l'amour, l'agapé du pharisien, ce n'est pas de la sympathie pour Jésus, il n'est pas franchement amoureux de Jésus, visiblement. Mais il a une certaine considération pour lui. Il se pose des questions, ce pharisien, il s'intéresse, il doute, il critique, mais il a invité Jésus chez lui, il examine sa façon d'être, il réfléchit, et si au début il n'a pas trop envie de dialoguer, de l'interroger, quand même, quand Jésus prend la parole, il l'écoute et il dialogue un minimum. Eh bien, c'est cette démarche-là, déjà, que Jésus appelle « aimer un peu » et donc avoir une petite foi. Et ça, je crois que c'est déjà, oui, un bon début, c'est déjà un premier stade. Et il y a là sans doute, je crois, quelque chose que toute personne de bonne volonté peut choisir de faire, ne serait-ce que par curiosité, comme ce pharisien. Même s'il n'a aucune sympathie, a priori, pour Jésus, ni pour la religion, même si une personne ne sait même pas si Dieu existe ou ça pourrait nous apporter quelque chose d'avoir la foi ou de croire, même si nous doutons, comme le pharisien, que Jésus soit le Christ, le Messie ou même un prophète, un porteur de parole de Dieu, eh bien Jésus appelle cette curiosité, cet intérêt, cette recherche, déjà un petit amour, donc une petite foi, donc une foi quand même. C'est pourquoi, n'en déplaise à nos chers réformateurs, à plusieurs reprises dans les évangiles, nous voyons Jésus nous inviter à choisir d'avoir la foi, avec des verbes qui sont donc à l'impératif présent. « Ayez la foi, dit Jésus en Marc 11. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi, dit-il en Jean 14. » Alors oui, la foi est un don de Dieu à la racine, comme un désir de bonheur existe en chacun de nous, comme un désir de sortir à l'air libre et d'avancer dans le monde, de vivre, comme le désir de respirer qu'a l'enfant naissant en venant d'accoucher. Mais la foi est aussi une réponse de l'homme. C'est un choix d'une personne ou d'un groupe de personnes, comme Josué qui dit « Moi et ma famille, nous choisirons l'Éternel ». Il y a d'autres choix possibles, comme on le voit dans certaines paraboles du créancier et des débiteurs, à commencer par tourner le dos, comme bien des disciples le font dans ces histoires des évangiles, qui tournent le dos à Jésus. Ou simplement, il y a moyen de ne rien faire pour soi-même, de ne rien apporter à sa famille, à ses proches dans ce domaine. Oui, c'est aussi un choix possible de l'homme. L'apôtre Paul nous dit que la foi n'est pas donnée à tout le monde. Alors ce n'est pas que Dieu soit injuste et qu'il aurait donné la foi à des chouchous et que pour d'autres, mauvaise pioche, on ne leur a pas donné la foi, tant pis pour eux. Non, Dieu veut le meilleur pour chacun, mais il y a des circonstances qui sont variables. Il y a une question d'environnement familial, une question de témoignage qui nous a été porté ou non porté, ou des contre-témoignages parfois, des accidents parfois. Il peut y avoir différents choix de vie aussi qui font place à un début de foi ou qui l'étouffent. C'est un fait que certaines personnes disent qu'elles auraient aimé avoir la foi, mais qu'elles ne l'ont pas, tandis que d'autres personnes ont la foi sans l'avoir absolument cherchée, alors qu'elles sont nées dans des familles complètement athées. Alors c'est vrai, je crois, cela de l'émotion religieuse qui est une des dimensions de la foi. Mais ce n'est pas la seule dimension de la foi. Il y a aussi des choix qui peuvent jouer dans notre existence, des façons de choisir la foi, de nourrir sa foi, de la développer ou au contraire de l'enfouir. Nous avons ainsi, dans une certaine mesure, le choix de répondre ou de ne pas répondre, ou de ne répondre qu'un peu à cet amour de Dieu qui nous autorise ou qui nous invite à s'intéresser à lui, à entrer en relation avec lui et à vivre sa vie à lui. Finalement, je crois qu'il en est de la foi comme du bonheur. Même les plus déprimés ont le désir du bonheur, nous dit le philosophe. Nous avons ainsi en chacun de nous la racine du bonheur, même si nous ne sommes pas toujours très habiles pour le saisir, même si nous ne savons pas toujours le reconnaître, le discerner dans notre existence, le saisir, le goûter au passage. Mais cette aptitude à vivre le bonheur, elle se travaille vraiment, je crois. Ça se travaille comme on peut entretenir sa santé, même si l'on n'est pas né le plus costaud du monde. On peut travailler sur sa santé, sur sa forme physique. Et même les plus costauds, des judokas, des véritables armoires normandes, il y a un gros travail aussi pour arriver à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. La foi, c'est pareil finalement. Ça se travaille. Et les personnes qui voient passer Jésus et qui se demandent « Mais qui est cet homme ?» Elles sont déjà ces personnes dans une certaine démarche. Elles acceptent de s'interroger, au moins un tout petit peu. Alors Jésus les a réveillées par le scandale du pardon de Dieu pour tout ce qu'il a annoncé et qu'il a vécu. Ils ont été touchés peut-être par le témoignage de cette femme et par le parfum qu'elle a rempli, par son sketch un peu grotesque dans un certain sens, qu'elle n'a pas eu honte de vivre, de montrer. Et le pharisien qui choisit d'inviter Jésus chez lui pour creuser la question, il est déjà un peu plus qu'à l'embryon de foi des gens qui commencent à se poser la question. Car en effet, il invite Jésus chez lui, alors peut-être progressera-t-il ensuite. La suite, on ne la connaît pas finalement, mais Jésus lui indique une marche à suivre pour aller plus loin. Est-ce qu'il va la suivre, cette marche? On ne sait pas. Il lui invite à commencer à reconnaître la foi qu'il y a dans cette femme qu'il méprisait. En plus d'être un petit peu source de paix, je crois qu'il y a énormément à s'enrichir, à recevoir soi-même quand on regarde les autres avec un peu de bienveillance au lieu de les regarder en s'arrêtant à ce qui ne va pas chez les autres. Et la foi, c'est aussi cela, se laisser ressusciter par ce qu'il y a de foi et donc de christique, de l'ordre du Christ dans ceux que nous rencontrons. Cela aussi, c'est choisir d'avoir la foi, d'avoir cette bienveillance, d'avoir cette recherche de voir dans la personne qu'on a en face, délibérément, positivement, concrètement, ce qu'il peut y avoir de bien, de vivant, de vivifiant dans une personne. C'est d'ailleurs ainsi que cette femme avance. Elle ne voit pas dans le pharisien un sale intégriste macho, mais elle voit un homme qui a eu la sagesse d'accueillir un petit peu Jésus ce jour-là. Et donc, elle se rend chez lui. Malgré tout, Jésus le conseille, ce pharisien, pour aller plus loin dans sa démarche. Il aurait pu, lui dit Jésus, laver les pieds du Christ, l'embrasser et mettre de l'huile sur sa tête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Ce texte nous appelle ainsi d'abord à examiner les pieds du Christ, son cheminement. et purifier ce cheminement du Christ, le purifier de nos préjugés, de nos incompréhensions, peut-être de tout ce que l'on a cru savoir jusqu'à présent. Cela, cette purification des pieds du Christ, du cheminement du Christ, cela se fait par l'étude, la réflexion, le débat, l'ouverture, la calme, tranquille confiance que nous avons dans l'amour de Dieu. Ensuite, il nous propose de nous approcher de lui en l'embrassant, c'est-à-dire avec notre bouche, en nous nourrissant de lui peut-être, en parlant, en l'aimant d'une certaine façon, en priant peut-être. Et en fait, nous pourrions, nous dit Jésus, verser de l'huile sur sa tête, c'est-à-dire le faire Christ pour nous. Pas seulement Christ pour l'univers, mais Christ pour nous, pour ceux qui nous entourent. Bénir le principe de vie, de mouvement et d'être qu'il incarne. Cette onction dans la Bible, cela signifie non pas abstraitement faire du Christ le Christ, mais s'ouvrir à ce qu'il désire et peut nous apporter comme salut venant de Dieu. La femme pécheresse, déjà, elle vit quelque chose de cet ordre-là, mais non pas ou non plus comme une simple décision, comme un simple choix de recherche personnelle, un peu douloureuse, un peu abstraite, un peu travailleuse, mais elle le fait dans la gratitude, dans l'abondance du cœur, et cela, c'est aussi une possibilité. En effet, d'abord, au lieu de convoquer le Christ chez elle sans bouger, comme le fait le pharisien, c'est elle qui est mise en route dans un mouvement vers lui, un mouvement de gratitude, un mouvement de joie. Et c'est cela, finalement, déjà aussi peut-être, avancer dans la paix. C'est là que la foi l'a sauvée, l'a rendue vivante, l'a rendue mobile, en cheminement. Ensuite, ce n'est pas ou ce n'est plus seulement un travail méticuleux de lavage des pieds avec une brosse et du savon, mais c'est avec ses larmes et ses cheveux qu'elle baigne ce cheminement de vie et de paix qu'elle reconnaît en Christ. À ce que dit Jésus, ces larmes, ce n'est pas des larmes de tristesse, de remords, de culpabilité pour ses nombreux péchés, mais Jésus nous dit que ce sont des larmes de reconnaissance, d'amour, de joie. Effectivement, avec le pardon de Dieu, avec le respect, avec cette dignité retrouvée qu'elle a sentie en Jésus, elle est bien au-delà de ce stade à ce moment-là. Ces larmes sont comme celles des hommes et des femmes qui sont en pleurs quand ils gagnent une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ce sont ces larmes-là qui nous viennent aux yeux chaque fois que nous mesurons les progrès que Dieu nous a permis de faire, progrès qui auraient été hors de notre portée, à notre seule réflexion, à nos seuls efforts. Oui, alors les larmes de joie de cette femme, elles débordent sans qu'elle l'ait choisie, mais c'est délibérément qu'elle est venue à lui et qu'elle offre le parfum de son témoignage qui se répand non seulement sur les pieds de Jésus, mais désignant ses pieds pour le bénéfice des autres. Oui, elle est déjà dans la joie, elle n'attend rien de plus apparemment de Jésus, elle ne lui demande aucune guérison, aucun rien de plus. Elle vit de la grâce par cette gratitude. Et cela est une extraordinaire dynamique de vie pour elle, d'expérimenter non seulement cette grâce, mais de pouvoir elle-même vivre de cette grâce par la gratitude. Et puis d'avoir la liberté, puisque cette foi-là lui permet d'aller son chemin et d'être elle-même bénédiction pour d'autres. En effet, ce « va » que lui donne Jésus, « va en paix », il fait écho au « va » donné à Abraham, en lui annonçant sa bénédiction, et qu'il sera bénédiction pour un grand nombre de peuples. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Et je vous propose de chanter notre louange à Dieu avec le cantique 315 dans le petit recueil Louange et prière, sur un texte donc du psaume 36, « L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui », le cantique 315, les quatre premières strophes. Alors, comme annonce pour ce dimanche du mois d'août, eh bien, il y a l'annonce de l'étude biblique, donc du groupe biblique que nous avons chaque mercredi donc de ces juillet-août. Mercredi prochain, de midi et demi à 1h30, avec un peu de café ou d'eau pour ceux qui les désirent, eh bien, nous aurons un moment de réflexion autour des personnages de Léa et Rachel. Donc, c'est au chapitre 29-30 du livre de la Genèse. Donc c'est en face, aux 4 rues de l'Oratoire, au rez-de-chaussée. Et puis bien sûr, le culte dimanche prochain à 10h30, comme tous les dimanches de l'année. Maintenant, c'est le moment de l'offrande pour faire vivre l'Église et lui permettre d'accompagner chacune et chacun dans les moments de sa vie, s'il le désire. Nous nous unissons dans la prière. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as donné en Christ. Merci pour cette fraternité humaine qu'il a encouragée, qu'il a créée, qu'il a suscitée. Nous te bénissons pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, et pour ton amour qui nous donne de pouvoir porter cela. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour. Et grâce à toi, nous pouvons enfin penser en vérité à tous ceux que tu confies à nos bons soins. Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, à tous ceux qui ont besoin de notre aide, de notre pensée, d'un geste, d'une parole, d'une attitude. Oui, nous pensons, grâce à toi, ô notre Dieu, à chaque être humain qui souffre, quel que soit le nom, l'origine, la cause de cette souffrance. Nous pensons aux solitaires, à ceux qui ont le cœur lourd, à ceux qui n'ont personne pour connaître leur nom et pour se souvenir d'eux que toi, ô notre Dieu, qui gardes fidèlement chacun de tes enfants. Que quelqu'un puisse aller vers eux, avec toi et par toi. Éclairé, vivifié par ton amour. Et dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Christ nous dit : vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant ceux qui vous entourent. Oui, que notre lumière brille ainsi par la parole et par les actes, avec en aide, pour que cela soit possible, la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun d'entre nous, Dieu Sauveur. Amen.